Je vous propose de relire ce matin deux textes qui sont deux des textes que nous avons lus et travaillés un petit peu ensemble dans le Nouveau Testament. Il y en avait aussi dans l'Ancien Testament, mais pour préparer ce baptême, nous avons lu entre autres ces deux textes-ci. Tout d'abord dans l'Évangile selon Luc au troisième chapitre, Luc 3, les versets 21 et 22. Il s'agit du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Alors que tout le peuple était baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et pendant qu'il priait, l'Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Et puis enfin, dans le deuxième texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 et suivants. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi, pars en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt et sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Va rejoindre ce char ». Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. » Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et, en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin, tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville en annonçant partout la bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. J'ai choisi pour aujourd'hui de revenir sur cet étrange récit du livre des Actes à la lumière du baptême de Jésus qui légitime, donne un sens aussi à cet autre baptême qu'on trouve dans le deuxième texte. Nous savons que le personnage principal de cette histoire est quelqu'un d'important. C'est un surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie, c'est-à-dire une sorte de ministre des Finances. Autant dire qu'il ne manque de rien, hein. Il est à la fois noble et puissant, il a... le char de fonction, si on veut, qui va avec l'importance de ses missions. Mais ce n'est pas important dans le texte. Ce qui prend toute la place, finalement, c'est qu'en plus d'être tout cela, il est aussi un cherchant sincère, appliqué et méticuleux. Il est prêt à voyager beaucoup pour répondre à de nombreuses questions, des questions qu'il se pose. Et nous dit-on, il scrute les Écritures pour s'informer encore davantage au sujet d'une tradition qui, après tout, n'est pas la sienne. Voilà donc quelqu'un d'assez curieux. On pourrait dire de lui qu'il est une sorte de pèlerin qui parcourt le monde avec une quête spirituelle. Et il est d'ailleurs tellement décidé qu'il possède une copie du prophète Ésaïe, à une époque où les manuscrits sont extrêmement rares et où presque personne ne sait lire. Encore une richesse, si vous voulez, encore un capital qu'il essaie de mettre à profit. C'est vraiment le représentant d'une élite à tout point de vue. Et pourtant, on ne se lance pas dans une quête comme la sienne sans reconnaître en même temps qu'on manque de quelque chose, malgré la possession de tout le reste. Et c'est précisément ce que Luc nous détaille dans ce récit un peu curieux. La première question adressée à cet Éthiopien montre l'intérêt et la perspicacité de Philippe. Comprends-tu ce que tu lis ? Et la réponse vient immédiatement. Comment pourrais-je comprendre ce que je lis si personne ne me guide ? La réponse paraît logique et pourtant, cet érudit, grand amateur de littérature étrangère, ne doit pas en être à sa première découverte ni à sa première surprise. Il a d'ailleurs quelques questions intéressantes à poser. De qui le prophète parle-t-il ainsi ? De lui ou de quelqu'un d'autre ? Il a bien compris, en quelques instants de lecture, l'enjeu de ce passage. Il sait ce qu'est un prophète. Il en connaît le rôle de lanceur d'alerte. Il n'est donc pas du tout perdu dans ce genre d'écrit. Il est seulement un peu perplexe devant la masse d'interprétation existante de ce passage. Ce n'est pas l'absence de sens qui le bloque, ce serait plutôt le trop-plein. Pour comprendre dans quel bain historique baigne cette histoire, comprendre surtout de quoi est issu le personnage de Philippe, il faut se rappeler la belle unité de surface qui existait dans les premières communautés, ancêtres de nos églises, et qui ne s'appelait pas encore chrétienne ou église. Mais il y avait aussi une crainte très très forte de ce qui était extérieur. C'était un petit groupe, au départ, de nostalgiques terrorisés par la disparition de leur maître, et dont les membres de ces communautés se tenaient entre eux, se tenaient chauds presque, et se rassuraient entre eux, seuls contre le reste du monde. C'est un peu l'ambiance que l'on trouve après la disparition de Jésus. Et voici qu'un étranger vient de très très loin pour les rencontrer et pour partager avec eux un monument de leur propre culture. Non pas pour leur donner des leçons, mais pour leur poser des questions peut-être auxquelles ils n'ont pas répondu tout à fait eux-mêmes. Pour en discuter avec eux, ou du moins avec Philippe, qui représente seul ici la communauté des disciples. Je crois que ce passage dit quelque chose d'important sur la nécessaire ouverture de nos églises vers ceux qui nous interrogent de l'extérieur sur le sens de leur vie et sur le sens de nos propres écrits, nos monuments de culture que nous conservons avec nous. Il y a quelque chose de très important qui vient de la part de ceux qui nous rejoignent de loin, nous adressent leurs questions parfois étonnantes, dérangeantes, toujours nouvelles, et qui ont déjà fait pas mal de chemin, comme cet Éthiopien, avant de nous trouver. Soyons donc reconnaissants de n'avoir pas à leur courir après, puisqu'ils viennent jusqu'à nous pour nous rejoindre, c'est déjà ça de pris. Mais ils viennent aussi avec leur richesse, et leur richesse est parfois un manque qui est à peu près le même que le nôtre. Ils viennent avec leur noblesse et avec leurs questions, et qui sont exactement les mêmes que les nôtres. Comment cette première église a-t-elle pu sortir de son enfermement premier, de sa terreur d'être sans l'élément principal et de se trouver aussi démunie, dépouillée ? Comment s'en est-elle sortie ? Eh bien, c'est effectivement à ce moment-là que les ministères particuliers sont apparus. Le service d'étable, le service de la parole de Dieu se distingue sans se séparer. On commence à spécialiser un petit peu les tâches et à distribuer ces tâches parce que la mission, l'œuvre en général, est immense. Peu à peu, des pasteurs, des docteurs, des diacres, etc. vont apparaître pour que l'Église qui était centrée sur elle-même s'occupe enfin un peu des autres. Et cela, ça leur a fait un bien fou. C'est un énorme changement et ce récit d'Actes 8 nous livre un exemple de ce qui a pu se passer dans cette Église naissante en pleine mutation. Dans notre texte, Philippe est justement l'un des sept hommes désignés pour le service des tables. Il n'était pas là pour pratiquer des baptêmes ni pour prêcher, ni pour faire de l'exégèse. Il était là pour s'occuper de mettre la table et de servir quelque chose dans les assiettes qu'on disposait sur ces tables. Il était là pour une mission bien concrète. Et c'est lui qui va rencontrer cet Éthiopien qui n'a pas faim, mais qui a des tas de questions, ou qui a faim d'autre chose, si vous voulez. On le voit ici, pas question pour Philippe d'intégrer à tout prix ce voyageur prestigieux dans une petite communauté apeurée. D'ailleurs, ça n'a pas eu lieu, puisqu'il est reparti. On ne lui demande rien à cet homme-là, ni sur sa religion, ni sur son origine. Il ne cherche qu'à aider Philippe à répondre à ces questions, qui sont peut-être aussi les siennes, avant de le laisser poursuivre sa route. Personne n'a cherché à l'embrigader, cet Éthiopien. On l'a laissé repartir parce qu'il est, dès le départ, reconnu et respecté pour ce qu'il est. Pas besoin de le faire ressembler à l'un d'entre nous, de le transformer en autre chose que ce qu'il était. Ce qui veut dire que pour Philippe, déjà, témoin de cette première église, le « entre nous », le « pour nous », le « comme nous » est déjà repassé au second plan, puisque d'autres ailleurs viennent partager nos questions. Mais Philippe a aussi offert quelque chose à cet Éthiopien de passage. Qu'il soit étranger ou d'une autre religion, eunuque et bien d'autres choses encore, n'a aucune espèce d'importance. Face à Philippe, il n'y a qu'une personne qui cherche sincèrement. Et parmi toutes les interprétations possibles, Philippe ne présente que celle qui identifie le serviteur souffrant à ce Jésus crucifié et ressuscité. Parce que le passage qu'il lise se trouve dans Ésaïe 53, donc à la fin du Deutéro-Ésaïe, du deuxième Ésaïe, où l'on trouve ces lignes citées presque mot pour mot. Alors vous pourriez m'objecter, évidemment, c'est normal, c'est la position officielle de l'Église à laquelle appartient Philippe, la seule affirmation qui en vienne et qui rassure finalement ses disciples traumatisés par la mort de leur maître. C'est normal qu'il se centre sur ce passage, mais ce n'est pas Philippe qui l'a choisi. C'est bien cet étranger qui se posait des questions sur ce passage. Le message de la résurrection n'est pas le constat triste d'une disparition. Ça aussi, il a fallu que ces petites églises naissantes sortent de cette ornière. Mais celle, au contraire, d'une présence permanente. Il leur a fallu du temps pour le comprendre. C'est la seule affirmation qui ne nous enferme pas dans nos églises, mais nous pousse à en sortir pour transmettre non pas le regret d'un cher disparu, mais la force de vie sous forme de parole qu'il nous laisse et qui n'est jamais morte. C'est la seule interprétation qui ne soit pas une thèse à adopter ou à rejeter après discussion. Ce n'est pas ce qui se passe dans la rencontre avec Philippe et cet Éthiopien. C'est une proposition de rencontre avec quelqu'un de vivant. C'est très différent. En annonçant le ressuscité, Philippe a aidé cet étranger de passage à faire le choix libre d'une rencontre qui peut changer sa vie, plutôt qu'une thèse de plus dont on ne sait pas trop quoi faire, puisqu'il y en a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le marché. À cette annonce, l'Éthiopien, qui décidément sait beaucoup de choses, qu'il est malin, cet Éthiopien, avance cette question. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Eh bien, rien, bien sûr. Rien ne l'empêche, puisque c'est le signe d'une alliance sans condition, comme un préalable. Toi qui as cherché à comprendre, rien ne t'empêche de plonger dans cette eau. Le reste viendra plus tard. C'est à ce moment-là qu'a lieu le baptême, et tous les baptêmes qui suivent, y compris celui de Suzanne, ont au fond le même sens que celui-ci. Il n'y avait pas besoin d'avoir une thèse particulière, personnelle, ou héritée, mûrement réfléchie, ou à peine assimilée, apprise par cœur, pour recevoir le baptême. Il fallait seulement entrevoir. Le chemin de liberté couvre ce passage par l'eau, sans avoir à rendre compte d'une foi particulière, d'une tradition ou d'une manière de voir, c'est-à-dire sans avoir à justifier de ce qu'on est au moment où on le reçoit. Le baptême que vient de recevoir Suzanne est précisément cette ouverture vers un chemin de liberté. Il nous appartient dès aujourd'hui et dans les années qui viennent de lui expliquer, sans doute, comme Philippe le fait, le sens de ces écritures qui sont devant nos yeux. Mais en faisant passer au second plan les thèses des uns ou des autres, pour mieux faire ressortir la rencontre libre est personnel avec un Christ toujours vivant, c'est-à-dire une parole de Dieu que personne n'a pu empêcher de parler, même en se débarrassant de son porte-parole. Et personne ne pourra faire ces choses-là à la place de Suzanne. Ce sera à elle de le faire avec sa manière et ses mots, ses questions. Nous lui montrerons seulement le tout début du chemin. C'est ce que nous venons de faire. De notre côté, nous essaierons aussi d'être pour elle cette église qui ne souhaite pas se replier sur elle-même, mais qui sait accueillir les besoins et les questions de celles et ceux qu'elle croise quelque part sur leur route. Si nous savons nous y prendre comme ça, nous, parents, marraines, église de Palaiseau ou d'ailleurs, alors Suzanne pourra vivre la même chose que cet Éthiopien, faire sa propre route librement, repartir avec joie. C'est important ce détail, cet état d'esprit dans lequel il repart, parce que l'essentiel est fait pour lui. Faire sa propre route librement, avoir sa propre compréhension des Écritures, en parler tranquillement avec qui elle voudra, l'espace d'un instant ou pendant des heures, et garder sa vie durant la même joie que cet étranger qui repart chez lui en étant à la fois le même et déjà tout à fait quelqu'un d'autre. Amen.